Mesdames et messieurs les conseillers, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de constater que la majorité des membres du conseil est présente. J'ai reçu le pouvoir de monsieur Olivier Paslec. Si Iris Berthommier accepte la charge de secrétaire de séance.
Bien sûr, monsieur le maire.
Merci, ma chère collègue. Elle sera assistée de Christophe Riwal, directeur général des services, en qualité de secrétaire adjoint. Mais avant toute chose, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter, en ce début d'année un peu particulier, la meilleure année possible. La meilleure année pour vous, pour vos proches, pour tous ceux et celles qui vous sont chers, dans ce contexte un peu particulier qui nous connaissons tous et qui, bien évidemment, est difficile à vivre pour beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants, beaucoup de Françaises et de Français, beaucoup dans toute leur diversité, qu'ils soient personnes physiques, qu'ils soient entrepreneurs, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur situation. Mais avant toute chose, je voulais bien évidemment également, car la vie est ponctuée d'événements heureux, mais aussi de drames, d'événements difficiles que nous connaissons tous dans nos familles, tous ceux et celles que nous pouvons connaître au cours de notre vie personnelle, mais également de notre vie politique. Et comme vous le savez, nous avons appris en ce début d'année 2021 le décès de notre ancienne collègue Marielle de Sarnez, qui a siégé pendant une mandature à nos côtés dans ce conseil du 6e arrondissement où beaucoup d'entre vous l'appréciaient, la connaissaient et ont travaillé avec elle. Je pense notamment à Olivier Paslec, Chantal Lambert-Burins, qui l'a connue il y a bien longtemps, puisque à travers Marielle de Sarnez, c'est presque un demi-siècle de vie politique qui s'est éteint avec elle. Vous savez qu'elle, très jeune, elle a participé à la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, elle a, se passionnant pour la politique, car elle était passionnée par la politique, elle a épousé la vie politique française et elle a été progressivement une actrice tout à fait essentielle au cours qui s'est déployée, elle s'est déployée tout au long de ces 50 dernières années au sein de l'UDF, puis au sein du Modem. Elle a accompagné la vie politique du centre pendant des années. Elle a travaillé longtemps aux côtés de François Bayrou, du ministère de l'Éducation, où elle a assuré sa direction du cabinet jusqu'à ces dernières semaines. Et partout où elle est passée, elle a laissé tout à la fois une image d'intégrité, de force, de lisibilité et d'engagement. Donc c'est véritablement avec une très grande tristesse que je préside cette séance et que je rappelle effectivement qu'elle était encore il y a quelques mois avec nous autour de cette table jusqu'aux élections, puisqu'elle ne s'est pas représentée aux élections. Elle a souhaité effectivement céder sa place et elle a fait en sorte que Séverine de Comprégnac soit candidate en deuxième position sur la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Donc nous sommes nombreux à être tristes, tout simplement, parce que nous avons vu que malheureusement on peut, comme beaucoup de Français et de Françaises, comme nous le vivons d'ailleurs intensément aujourd'hui, dans cette période un peu terrible, on peut très rapidement nous quitter, disparaître, mais Marielle de Sarnez laissera en tout cas une trace indélébile, et je suis très heureux aujourd'hui de lui rendre hommage. Je vais maintenant passer la parole à Séverine de Comprégnac, et après je vous proposerai, mes chers collègues, d'observer une minute de silence.
Merci, monsieur le maire. Marielle nous a quittés il y a presque une semaine maintenant, après 6 mois de combat acharné. Telle que nous la connaissions, nous ne voulions pas y croire. Et pourtant, je l'ai rencontrée il y a plus de 25 ans, alors qu'elle était au cœur du combat pour l'éducation aux côtés de François Bayrou, et que, jeune militante, je lui vouais une admiration sans borne. J'ai appris à la connaître, comme beaucoup d'entre nous, à travers ses passions. la politique au plus haut sens du terme, celle qui se fait de façon désintéressée, juste parce que l'on y croit, parce que l'on croit que l'on peut construire, faire mieux, avancer au nom de notre pays et au nom des Français. C'était la force de Marielle, la force de ceux qui ne veulent jamais être devant et qui bâtissent patiemment, mais avec fougue et conviction. L'Europe aussi, celle inspirée par Giscard, faisait partie de ses principaux combats, celui qui a fait se rallier beaucoup de jeunes militants au mouvement politique qu'elle animait avec François. La jeunesse, enfin, celle pour laquelle elle s'est battue, pour la mettre en avant, la protéger, lui donner des perspectives, la faire rêver, en somme. On ne les compte plus, tous ceux qui l'ont suivie grâce à son rayonnement. Marielle, c'est aussi la femme urbaine, avec Paris au cœur, cette ville pour laquelle elle a tant donné, pour son unité, pour lui inventer un nouvel avenir, grâce souvent à des idées très innovantes. Comme sur chaque sujet, elle était précurseur et n'avait de cesse de convaincre autour d'elle. Quelques 20 ans après elle et à son initiative et celle de François, j'ai pris sa suite au secrétariat général du groupe centriste à l'Assemblée. Et l'an passé, elle m'a offert cette chance de rejoindre l'équipe du 6e arrondissement à tes côtés, cher Jean-Pierre. Je veux, avec Iris Berthommier, l'exemple même de cette jeunesse qu'elle a su entraîner, et tous ceux qui le souhaitent ici lui rendre hommage ce soir. Hommage à l'énergie qui l'a caractérisée profondément, à cette modernité qui ne l'a jamais quittée. Lorsqu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale en 2017, elle avait été la première à souligner la vétusté du fonctionnement de cette institution, n'ayant de cesse de vouloir la moderniser. C'est ce qu'elle a fait en présidant la Commission des Affaires étrangères, révolutionnant son fonctionnement, attentive à ce que la démocratie soit parfaitement respectée, l'opposition en particulier, d'où qu'elle vienne. Marielle était une pionnière, toujours prompte à faire avancer le collectif. Elle était inspirante pour beaucoup d'entre nous et le restera pour longtemps. La dernière image que je veux garder d'elle, c'est celle de la femme joyeuse, riante, blagueuse à l'outrance quelquefois, dont le sourire et les éclats de rire illuminaient son auditoire. Elle va nous manquer.
Et d'observer une minute de silence. Merci infiniment. Alors, l'ordre du jour définitif de la séance comprend 13 points et au titre du premier d'entre eux, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le procès-verbal de notre dernière séance. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de l'adopter. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Je vous en prie.
Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Si je voulais simplement faire une petite explication de vote, malheureusement, nous allons devoir nous abstenir sur ce procès-verbal, puisque, avec mes collègues, nous déplorons qu'il soit trop succinct, comme on vous l'a déjà fait remarquer. Effectivement, il ne contient que le nombre de votes pour chaque délibération et ne rentre pas plus dans le détail. Donc, nous avons bien entendu que le Conseil étant filmé, on ne peut pas retranscrire l'intégralité de nos échanges. Cependant, nous pensons qu'il serait tout à fait judicieux qu'il puisse y avoir plus de détails sur les grandes thématiques qui sont abordées ou les questions qui sont posées lors du conseil d'arrondissement pour que voilà, les habitants qui ne vont pas suivre en replay l'intégralité du conseil d'arrondissement puissent accéder à ce document, aussi succinct qu'il puisse être, mais qu'ils puissent avoir là tous les éléments et pas uniquement le nombre de personnes qui ont voté pour telle ou telle délibération, mais qu'il puisse y avoir un extrait au moins des différents échanges qui ont lieu. Donc nous allons nous abstenir sur ce procès-verbal.
Très bien. Alors, je ne vais pas rouvrir la discussion. On avait déjà eu la discussion sur ce sujet. Donc je note qu'il y a... nous sommes sur deux versants différents. Après, vous avez la possibilité, je vous le redis, si vous souhaitez particulièrement, sur un point particulier, attirer notre attention, vous pouvez très bien le faire. Et on peut effectivement réintégrer a posteriori dans le Conseil ce point. Et je note votre position et vous avez noté la nôtre. Donc je vous propose de donc qui ne prend pas part au vote, vous abstenez donc tous les trois peut-être, non? Voilà, très bien. Qui vote contre, qui vote pour, le procès-verbal est adopté à la majorité. Mes chers collègues, nous avons en premier point, c'est-à-dire après l'adoption de l'extrait des délibérations et la désignation du secrétaire de séance, nous avons à adopter et à désigner les membres de trois conseils de quartier. Conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés, Rennes et Notre-Dame-des-Champs. Comme vous le savez, le 6e arrondissement comporte 6 conseils de quartier, Monet, Notre-Dame-des-Champs, Odéon, Rennes, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Placide. Les membres des conseils sortants sont arrivés au terme de leur mandat. Ils avaient été désignés et approuvés le 12 septembre 2017. Nous avons adopté le nouveau règlement intérieur des conseils de quartier lors du conseil d'arrondissement qui s'est déroulé le 22 septembre 2020. Ils sont donc composés aujourd'hui de 16 membres répartis en 3 collèges. Le premier collège qui comprend des élus et des personnalités qualifiées. 2 personnalités qualifiées et 2 élus. Le second collège qui accueille les représentants des associations, 4 associations. Et le troisième collège où sont représentés les habitants tirés au sort. Et nous avons effectivement adopté, parmi les innovations que nous avons adoptées, la innovation essentielle, c'est qu'effectivement maintenant, les 4 membres titulaires du collège habitant et les 4 membres suppléants siégeront simultanément. Le mandat de ces représentants est 3 ans et renouvelable. Le renouvellement interviendra donc en 2023 pour la seconde partie de la mandature. Le tirage au sort du troisième collège, c'est-à-dire du collège habitant, s'est déroulé le mardi 17 novembre 2020 à 18h, en présence de M. Riwal, et si je ne me trompe pas, de M. Comet et de M. Passelec. La séance était ouverte au public dans le respect, bien évidemment, des règles sanitaires. Je tiens, mes chers collègues, à saluer l'investissement des conseils de quartier sortants et des conseillers, de leurs membres, durant ces 3 années. Ils ont été impliqués aussi bien dans la concertation autour de dossiers importants portés par la mairie de Paris, ainsi que par la mairie du 6e arrondissement, que dans des projets de proximité. Et je les en remercie chaleureusement. Quant aux nouveaux conseillers, qu'ils soient représentants du collège habitant ou qu'ils soient représentants d'associations, je leur souhaite la bienvenue et je me réjouis que nous puissions collaborer avec eux, je le pense, de matière très fructueuse. Donc je vous propose d'adopter la nouvelle composition des 3 premiers conseils de quartier, Notre-Dame-des-Champs, Rennes et Saint-Germain-des-Prés. Alors vous pourriez vous poser la question, pourquoi nous ne prononçons pas sur les 6 quartiers, tout simplement parce que effectivement il faut un certain nombre qu'une certaine concertation ait lieu, que les personnes donnent, notamment ceux qui représentent des associations, donnent leur avis, que les élus soient consultés, ce qui était le cas. Et puis également, il nous a semblé assez logique que dans ces périodes un peu difficiles, nous puissions rapidement approuver la composition de 3 premiers conseils afin qu'ils puissent se réunir rapidement. Lors de notre prochain conseil d'arrondissement qui se tiendra, si je ne me trompe pas, au mois de février, nous adopterons la composition des 3 autres quartiers, c'est-à-dire Monet, Odéon et Saint-Placide, qui pourront également se réunir rapidement. Et puis, après, ils se déploieront. Ils se déploieront avec leur président, avec leur bureau, et avec, en fonction des souhaits, des sujets qu'ils souhaitent aborder. Et comme par le passé, nous continuerons, lorsque nous aurons des réunions de SICA, à associer les membres des conseils de quartier. Je pense notamment qu'il serait intéressant que, sur notamment le sujet majeur du PLU, le plan local d'urbanisme, nous puissions, je le pense, dans le courant du mois de mars, tenir une réunion avec les conseillers de quartier, soit en présentiel, soit effectivement en visioconférence, mais je souhaite véritablement que le maximum de réunions se tiennent en présentiel, car même si le contexte est difficile, la démocratie doit continuer à se développer, à exister, et nous avons la chance dans le 6e arrondissement d'avoir un conseil d'arrondissement qui n'est pas très nombreux, qui ne comporte que 13 membres. Les conseils de quartier comprendront, eux, pour leur part, 16 membres. Ils pourront donc se réunir dans cette salle dans le strict respect des gestes barrières et des conditions sanitaires. Je crois que c'est une très bonne chose, donc je vous propose, mes chers collègues, d'adopter la composition de ces conseils de quartier, dont vous avez la totalité des membres. Alors j'aurais pu strictement, sur un strict plan juridique, ne soumettre à l'adoption du conseil d'arrondissement que le collège des associations des trois conseils. Mais j'ai souhaité, par mesure, ça m'a paru normal, que ce soit la totalité des membres du Conseil qui vous soit présentée ce soir. Puisque le Collège des habitants, je le répète, a fait l'objet d'un tirage au sort, et puis le premier collège, les PQ, personnalités qualifiées, pardon, et les élus, par définition, ils sont les PQ, c'est le maire d'arrondissement qui les désigne, et les élus, ils se sont placés en fonction de leur volonté. Voilà ce que je voulais dire. Je vous propose de voter peut-être pour, dans l'ordre de la présentation de ces quartiers. Donc, tout d'abord pour le quartier Saint-Germain-des-Prés, ensuite pour le quartier Rennes, et enfin pour le quartier Notre-Dame-des-Champs. Mais je donne bien volontiers la parole à ceux de nos collègues qui voudraient la prendre. Madame Hervieux.
Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, je regrette, mais visiblement nous avons quand même pris un retard considérable sur l'organisation de ces conseils de quartier. Vous nous aviez indiqué dans un premier temps une désignation des collèges 1 et 2 qui devait avoir lieu au mois de décembre. Donc, vous nous avez dit que dans le cadre du contexte sanitaire, ça avait été décalé au mois de janvier. Donc très bien, soit. Nous sommes le 19 du mois et aujourd'hui, vous nous proposez de ne mettre en place que 50% de ces conseils de quartier, donc 3 sur 6. Donc effectivement, nous sommes quand même globalement assez étonnés de voir que les représentants désignés ce soir ne concernent que 3 conseils de quartier sur 6, ce qui veut dire que nous sommes loin d'être opérationnels d'ici la fin du mois de janvier. Qu'est-ce qui justifie un tel retard? Alors j'entends la problématique de concertation. Si ça a pu se faire sur 3 conseils de quartier sur 6, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas pu se faire sur les 3 autres conseils de quartier qu'il reste. Et par ailleurs, Madame de Varax et Monsieur Passelec avaient parfaitement rempli leur rôle en organisant dès la fin d'année dernière le tirage au sort pour le collège des habitants, qui est finalement la partie la plus complexe à organiser. Donc ça, ça a été parfaitement fait dans les temps. Mais pour ce qui concerne les désignations, c'est beaucoup plus simple, Monsieur le maire, puisque ça vous revient de droit. C'est formidable de pouvoir nous faire participer et voter sur les personnels qualifiés. Mais nous, ce que nous souhaiterions surtout, c'est qu'ils puissent être opérationnels rapidement, ces conseils de quartier. Et là, c'est vrai qu'on prend encore du retard. C'est dommage, parce que dans le cadre de la crise sanitaire, il eût été utile de mobiliser les conseils de quartier, par exemple, sur des initiatives de solidarité. Vous avez parlé effectivement du PLU. Le budget participatif qui va être lancé dès le 4 février, il a été utile également que les conseils de quartier puissent se réunir en amont pour commencer à réfléchir sur des projets qu'ils ont à présenter. Donc moi, je ne comprends pas et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on a pris un tel retard dans la désignation de ces personnels qualifiés et du collectif des associations qui aurait pu être fait bien en amont, puisque ça fait des mois qu'on parle de la mise en place de ces conseils de quartier qui ne sont pas optionnels, qui sont très importants pour faire vivre la démocratie locale. Je vous remercie.
Merci, ma chère collègue. Alors, il est bien évident que dans une démocratie, on ne satisfait jamais tout le monde. Et dans cette affaire, je vous ai entendu, hein, j'ai entendu. Alors, je vous avais un peu déjà répondu par anticipation, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons choisi de passer au vote ce soir 3 conseils de quartier, pas la totalité. J'aurais pu attendre le mois de février. En réalité, selon la fameuse formule « quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure », vous n'avez pas regardé ce qui se passe dans certains arrondissements. et notamment dans le 11e arrondissement, qui est, je crois, la terre d'élection nouvelle de la maire de Paris, on est en train de refondre complètement les conseils de quartier, mais complètement. Donc ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher de façon encore plus forte à certains de vos collègues. Donc je vous entends, mais je considère finalement, ayant fait un petit tour de piste, que nous ne sommes pas si mal. Et que d'autre part, je sais que certains de ces conseils vont se réunir excessivement rapidement. Donc ils pourront travailler, mais n'exagérons pas non plus. Les conseils de quartier ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie politique parisienne. D'ailleurs, vous savez, lors de la dernière mandature, la municipalité sortante, passez-moi l'expression, s'était beaucoup assis sur les conseils de quartier. Le budget participatif, lorsqu'il a été lancé, a écrasé complètement les conseils de quartier. Il les a écrasés tel un éléphant écrasant une mouche. Donc, il est bien évident que là, nous essayons justement de les réanimer. Mais on va les réanimer avec des budgets d'investissement qui restent excessivement modestes, dans un cadre qui est très contraint. Après, on verra. On va essayer de voir comment on peut les faire fonctionner. Moi, j'essaie de les associer au maximum. Je suis pas du tout obligé de les convoquer, de les convier, mais de leur proposer d'assister au SICA, nous l'avons toujours fait. Il faut dire qu'il y a des arrondissements aussi qui font plus de SICA, donc c'est aussi une autre possibilité. Mais bref, on va essayer de les faire vivre dans le cadre réglementaire qui est le nôtre, et je suis persuadé que ça fonctionnera bien. Quant à ce que vous avez, votre dernier argument, c'est-à-dire la période, le lien entre les conseils de quartier et le budget participatif, on va en reparler dans quelques instants à l'occasion de la charte du budget participatif. Mais encore une fois, il est parfaitement d'accord. Si on ne débattait pas, si on ne s'exprimait pas, si ça ne devait être qu'une chambre d'enregistrement, eh bien, écoutez, ça serait pas terrible. Et c'est parce que je souhaite, et je pense que on est tous d'accord, qu'il y ait des échanges, que ce conseil d'arrondissement se tient en présentiel, alors que dans certains autres arrondissements, je ne veux pas citer le même que j'ai cité tout à l'heure, il paraît que ça se tient en visioconférence. Visioconférence, on en a tous un peu marre. Donc c'est vrai que même si on débat à certains moments, eh bien, ça fait du bien de se voir, même avec des masques, et même quand les masques ne tiennent pas très bien. C'est un peu mon cas ce soir, je m'en excuse. Donc je vous propose peut-être, on va voter à main levée, hein, je pense, si vous êtes d'accord, comme on n'est pas très nombreux. Donc pour le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés, je ne redonne pas la composition, puisque vous l'avez sous les yeux, je peux vous la donner. Conseil du quartier Saint-Germain-des-Prés. Il sera composé de collège numéro 1. Je le dis effectivement pour le public, et puis parce que nous sommes filmés. Donc le collège numéro 1 est composé de 2 élus, Chantal Lambert-Burins et Iris Berthomier. De 2 personnalités qualifiées, Madame Anne Régent Nataf et Monsieur Christian Chevalier. Des associations, Paroisse Saint-Germain-des-Prés, représentées par Jacques de Saulieu, Comité Saint-Germain-des-Prés, représenté par Monique Mourou, Art Saint-Germain-des-Prés, représenté par Marie-Hélène de la Foy d'Yvonne, et Rue Visconti-des-Prés, c'est une association représentée par Alison Nolan. Les habitants titulaires, je les cite, Marie-Catherine Magasson, Guillaume Bullier, Emmanuel Aboulker, Vincent Hibon, Marc Conzati, nous passons après les titulaires aux suppléants, Marc Conzati, Donatello Di Meo, Fabrice Burgot, Sally Bangoura. Mes chers collègues, je vous propose de voter. Monsieur Comet.
Oui, monsieur le maire, pouvez-vous nous dire qui sera le président de ce conseil de quartier?
Pardon?
Pouvez-vous nous dire qui sera le président de ce conseil de quartier?
Je n'ai pas. C'est demain que vous le saurez, parce que formellement, le règlement, il faut déjà que nous adoptions, et je vous le ferai savoir demain. C'est un choix du. Vous pouvez relire le règlement des conseils de quartier. Je vous le ferai savoir pour les deux autres également. Donc je vous propose de délibérer, mes chers collègues, qui ne prend pas part au vote, qui vote contre, qui vote... attendez, je suis perdu. Qui s'abstient, qui vote pour, Je vous remercie. Nous passons maintenant au quartier Rennes. Rennes, Madame Cassette, mais appelée Rennes. Alors, nous avons comme élu Madame Hervieux, Céline Hervieux, Olivier Passelec. Comme personnalité qualifiée, Christine de Kershov, Emmanuel Pirat. Comme représentant des associations, La Maison Magis, Marie-Julienne. Partage 5, 6, 7, Jean-Paul Loras. Association Générale des Familles du 6e, Xavier Guespero. Les Parents de la Rue Madame, Marion Delcourt. Comme habitant titulaire, Jean-Paul Combrenègre, Guillaume Thévenin, Stanislas Verju, Magda Mansour. Habitant suppléant, Laurent Sardi, Jean-Michel Hervieux, Mohamed Haïdara, Louis Jouve. Je propose de délibérer. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et pour le quartier Notre-Dame-des-Champs, le troisième, nous avons Séverine de Comprégnac et Ariel Bocan. En personnalité qualifiée, Gisèle Donard, Dignier Marmion. En représentant des associations, Laurence Moutarde pour l'association de jeunesse sportive Pitré-Ollier. Christophe Tain pour l'association quartier Notre-Dame-des-Champs. Delphine Cohen-Denac pour l'association des parents d'élèves du lycée Montaigne et Alice Guilherme pour l'association des parents d'élèves de Sainte-Geneviève, du lycée Sainte-Geneviève. En représentant des habitants titulaires, nous accueillons Catherine Marie, Aline Ledoussal, Julien Sebag, Blandine Ruin-Poncet, en suppléant, siégeant comme les titulaires, Mireille McGovern, Victoria Verjus-Terry, Édouard Valman, Robin Biondi, selon la prononciation. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie, mes chers collègues. Voilà donc trois conseils de quartier qui vont pouvoir commencer à travailler, je l'espère, le plus rapidement possible. Et bien sûr, on vous communiquera les noms des présidents, et puis effectivement, si certains se réunissent le plus rapidement possible, et il faut effectivement qu'ils se réunissent avant l'objectif, avant la prochaine séance du conseil d'arrondissement, ça me paraît aller être frappé du bon sens. Je vous propose maintenant de continuer nos travaux, et je vais donner la parole à deux reprises à Ariel Bocan sur deux sujets d'intérêt général touchant aux affaires scolaires.
Bonsoir, Monsieur le Maire, chers collègues. Donc, on nous demande ici d'approuver des dotations de fonctionnement, des subventions d'équipement et des subventions pour travaux pour les collèges et les lycées municipaux parisiens, prises en charge par la collectivité. Le sixième n'est pas concerné par les dotations complémentaires de fonctionnement. Par contre, les subventions d'équipement concernent Prévert pour 16 000 euros et Montaigne pour 11 100 euros sur un budget global de 2 056 925 euros. 55% de ce montant servira à l'équipement lié à l'informatique et au numérique. Donc pour Prévert, je détaille, c'est pour un vidéoprojecteur, des rideaux pour la salle de classe, bon, c'est pas de l'informatique, on est d'accord, et un équipement audiovisuel pour la salle de réunion et les cours hybrides. Pour Montaigne, il s'agit de casiers pour les élèves, de rayonnage du CDI et microscope et caméra pour la salle d'SVT. Enfin, des travaux urgents seront pris en charge et conduits par la Direction des constructions publiques et de l'architecture et la Direction des affaires scolaires. Prévert est concerné pour 9 517 euros pour le réalignement du guide d'ascenseur. Donc c'est assez important pour la sécurité. Je vous demande donc de voter favorablement cette délibération d'ASCO 02. Je vous remercie.
Chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Je redonne la parole à Ariel Bocan sur le secteur de recrutement des écoles publiques pour la prochaine année scolaire 2021-2022.
Oui, merci beaucoup. Donc là, j'ai été un peu surprise par le titre de modification de secteur de recrutement, parce qu'il n'y a pas de modification proprement dite de périmètre scolaire qui vise le 6e arrondissement. C'est plutôt des modifications qui sont proposées, en l'occurrence pour l'école maternelle et l'école élémentaire Saint-Benoît, pour une école donc qui passe à 10 classes et qui va passer, enfin qui est passée d'ailleurs, c'est une régularisation, en école, polyvalente Saint-Benoît. Donc je vous demande juste d'accepter cette modification qui est en cours actuellement. Je vous remercie.
En réalité, ça a été réintégré dans le secteur. Il n'y a pas de modification. Les modifications sont intervenues déjà, mais on nous demande d'acter a posteriori cette création qui fonctionne bien et qui a permis à Madame Valette, d'ailleurs, la directrice de l'école maternelle, de se maintenir à la tête de la direction de l'école polyvalente, son collègue de l'école élémentaire étant parti à la retraite au mois de juin. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'adoption de la nouvelle charte du budget participatif et je vais passer la parole à notre collègue Florence Devara.
Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc il s'agit de délibérer sur l'adoption de la nouvelle charte du budget participatif que nous avons reçue très récemment. Voilà, je vous en résume d'abord rapidement le contenu. Le budget participatif que vous connaissez déjà permet à tous les Parisiens et les Parisiennes de se prononcer chaque année directement sur l'affectation d'une partie du budget d'investissement de la ville de Paris. À l'issue des 6 premières éditions, une nouvelle charte vient d'être élaborée. Elle définit le cadre général de mise en œuvre de cette démarche participative. Elle est donc articulée autour de 2 grands principes qui sont, d'une part, l'ancrage territorial et, d'autre part, l'association des Parisiens à toutes les phases. Les évolutions apportées visent notamment à intégrer ce budget participatif dans la démarche plus globale des 25% du budget d'investissement de la ville de Paris, ainsi qu'à renforcer la dimension collective. Les mairies d'arrondissement coordonnent l'organisation des différentes phases. Les enveloppes allouées au budget participatif par arrondissement et pour Paris sont déterminées une fois les projets lauréats désignés à l'issue du vote. Une plateforme unique est mise à disposition pour recueillir les propositions qui doivent respecter un format minimal. Et ensuite, c'est l'examen de recevabilité des propositions. Alors, les projets relevant de l'espace public et qui s'inscrivent dans un quartier concerné dans les 2 années suivantes par une démarche de participation d'aménagement, ce qu'on appelle actuellement les quartiers baudriers, ne seront pas recevables. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les propositions qui nécessiteront l'intervention des marteaux-piqueurs ne seront pas retenues. Plusieurs projets peuvent être regroupés. La liste définitive des projets parisiens sera soumise au vote et arrêtée par la mairie de Paris. La liste définitive des projets d'arrondissement soumise au vote sera arrêtée par le maire d'arrondissement après consultation de la commission d'arrondissement qui sera composée du maire, des élus de l'opposition et du représentant de la mairie de Paris. Alors, il y aura 2 projets lauréats désignés pour Paris. D'autre part, le nombre de projets retenus pour chaque arrondissement est déterminé par le nombre d'habitants. Donc, pour le 6e arrondissement, ayant moins de 90 000 habitants, 2 projets seront donc retenus. Cependant, ayant reçu les informations très tardivement, le temps pour proposer les projets sont donc très courts. Nous n'avons que le mois de février, c'est-à-dire jusqu'au 28 février. D'autant plus que la DICOM, c'est-à-dire la Direction de l'information et de la communication de la ville de Paris, n'a encore envoyé aucun support de communication. Nous estimons donc que le délai de proposition de projet doit être allongé d'un mois, au moins jusqu'à la fin du mois de mars. Dans ces conditions, je vous invite donc, mes chers collègues, à ne pas adopter cette nouvelle charte du budget participatif, en dépit, évidemment, de l'importance que nous accordons à la démocratie participative. Merci. Je vous remercie.
Oui, alors pour compléter effectivement l'excellent exposé de Florence de Varra, bien évidemment, nous ne sommes pas contre le budget participatif, nous ne sommes pas contre cette charte, mais nous estimons, alors vous voyez, on se retrouve un peu la situation inverse que notre collègue nous a reproché tout à l'heure. Effectivement, nous estimons que le bilan du budget participatif au cours des dernières années n'a pas été fait ou fait tardivement, parce que le document qui figure sur la table et que j'ai souhaité vous mettre sur la table pour que vous en puissiez prendre connaissance nous est parvenu hier soir à 18h. Alors, je sais bien que j'avais toute la nuit pour le relire et pour éventuellement corriger quelques erreurs. J'ai l'habitude de corriger les fautes d'orthographe, j'empoisonne mes collaborateurs avec ça, mais plus sérieusement, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, ce document qui est assez bien fait, il a le mérite d'exister, d'ailleurs, et je ne le reproche pas. Mais il y a des manques dedans. Pour ne parler de la partie sixième, on nous dit qu'il y a 9 projets qui sont encore en cours de réalisation, on ne sait pas lesquels. Alors j'en connais certains, le plus important, effectivement, est celui qui concerne la façade du portail de Saint-Germain-des-Prés, et qu'on arrivera peut-être à faire éclore un peu plus tard, mais il n'y a pas d'autres éléments. Alors, je ne le reproche pas. Ce que vous m'avez reproché tout à l'heure, ma chère collègue, je ne le reproche pas à la mairie de Paris. Parce que le contexte, les élections, que vous le savez, ont eu lieu tardivement, le deuxième tour au mois de juin. Après, il fallait bien prendre quelques vacances. Et ensuite, il a fallu que les cabinets se remettent à fonctionner. Les cabinets d'adjoints, il y en a de nombreux. Et je crois savoir que c'est Madame Toragnan qui est en charge de la démocratie participative. C'est un portefeuille complet. Il y a eu un certain nombre de visioconférences, pas de réunions en présentiel, et effectivement, dans le cadre de ces visioconférences, on nous a assez rapidement parlé de cette période de sélection, de ce mois de février, au cours duquel les Parisiennes et les Parisiens pourront effectivement faire des propositions. On arrive très rapidement sur le mois de février. C'est vrai qu'on a 3 conseils, nous, sur 6 qui sont prêts, mais comme vous le savez également, c'est l'ensemble des Parisiens, les conseils du quartier, mais aussi l'ensemble des Parisiens qui pourront émettre des projets. Mais compte tenu du fait que nous n'arrêtons pas le temps qui passe, malheureusement, on le sait, on va avoir la mairie de Paris aura beaucoup de mal à communiquer suffisamment rapidement pour que les Parisiens qui ont d'autres soucis en ce moment, et d'ailleurs nous les partageons, les vaccins, la situation de leurs proches, la situation de leur entreprise, la situation de leur famille, eh bien, ce que nous souhaitons simplement, mais on le réitérera d'ailleurs dans les prochains jours, c'est qu'on étende la période, ou qu'on la décale, ou on l'étend sur la totalité du mois de mars, ou on la décale pour que, effectivement, les Parisiens puissent le faire. Alors, si c'est pas possible, si la mairie de Paris souhaite maintenir cette période du mois de février, on fera toujours ce qu'on a fait dans le 6e, on s'adaptera. On sortira un numéro, un recto verso de 6e info spécial pour porter à la connaissance des Parisiens, des habitants du 6e. Je diffuserai uniquement sur le 6e pour qu'ils puissent effectivement porter un certain nombre de projets, mais je pense que l'exercice ne sera pas très réussi. D'autant plus que, comme vous le savez, en février, il y a quand même 15 jours de vacances. Il sera peut-être difficile d'aller passer à la montagne, mais en tout cas, on pourra. Je crois que malheureusement, ça sera un peu amputé. Voilà, c'est dans cet esprit. C'est un esprit qui n'est pas un esprit, je dirais, de combat. C'est pas un esprit d'obstruction. C'est un esprit coopératif. Je pense que, et ça, si vous pouvez faire remonter le message, puisque vous appartenez à l'exécutif parisien, effectivement, je crois que ça serait une bonne chose que la période soit ou décalée, ou prolongée, ou étendue. C'est dans cette optique-là. Ce qui nous empêchera pas, ce qui empêchera pas les conseils de quartier, les trois conseils de quartier qui vont se réunir sans doute prochainement, de commencer à réfléchir au budget participatif. Voilà, mes chers collègues. Alors, Madame de Comprignac, peut-être après Monsieur Comet ou Madame Hervieux ou Madame Kiss, si elles veulent intervenir.
Merci, Monsieur le Maire. Pour ce qui me concerne, j'entends ce que nous dit Florence et de Marax et nous la suivons, bien sûr. On a l'intention de déposer des amendements au Conseil de Paris pour essayer de faire évoluer cette charte et en fonction de l'adoption ou non de ces amendements, nous réviserons à ce moment-là notre vote ou non.
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Madame Kiss.
Monsieur le maire, chers collègues, merci. Donc, en ce qui concerne ce projet de charte du budget participatif, il y a quelques incertitudes que nous souhaitons lever, comme par exemple le choix de la thématique du budget participatif central. Pour le moment, on ne sait pas qui va la définir. Donc, nous voudrions qu'elle soit issue d'un processus participatif. Nous demandons aussi que l'engagement de réaliser l'ensemble des projets votés dans la mandature précédente soit réitéré, aussi bien au niveau central qu'au niveau d'arrondissement. Nous avons aussi quelques questions concernant le fait que sur l'espace public, on ne puisse pas proposer de projets. Donc on entend bien que Paris va être complètement refaçonné via des concertations avec les habitants, mais on considère quand même qu'on ne peut pas les exclure totalement de cet aménagement de l'espace public. On voudrait aussi que les élus d'arrondissement de toute tendance soient plus associés aux différentes étapes du budget et également qu'au niveau du budget participatif, il soit bien clair que les thématiques ne doivent pas relever de ce qui doit être pris en charge par la ville ou par l'arrondissement. Par exemple, je pense dans certains arrondissements, il y a eu des demandes d'aménagement dans les écoles, au niveau de la propreté des toilettes, etc. Donc pour nous, ça ne relève pas du budget participatif. Donc on voudrait qu'il y ait un peu plus de précision à ce sujet. Et donc pour toutes ces raisons-là, je vais m'abstenir pour cette charte.
Oui.
Merci.
Alors, juste un mot avant de donner la parole à M. Comet. Merci de votre intervention. Il est l'essentiel de ce que vous avez dit et qui vous est propre. Il y a des choses que je peux partager, mais l'essentiel de ce que vous avez dit relève plutôt d'une intervention au niveau du Conseil de Paris, puisque ici nous est soumis un projet de charte participative qui a été élaboré par les services, élaboré notamment sous la délégation, sous l'autorité de Madame Thoragnan, qui est la maire adjointe chargée de la participation des conseils de quartier, de la démocratie participative. Et c'est donc, si vous voulez, beaucoup des points que vous citez et sur lesquels on peut être plus ou moins d'accord, relèvent véritablement d'une discussion au niveau de votre groupe. Je l'ai déjà dit, je le redirai tout à l'heure sur un de vos vœux, une discussion intergroupe entre dans la majorité municipale, comme moi je peux avoir au sein de ma majorité municipale des discussions. Mais là, si vous voulez, nous ne pouvons pas élaborer, si vous voulez, une charte participative spécifique au 6e arrondissement. C'est pas possible, hein, puisqu'on revient toujours à la même chose. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice. Nous sommes un arrondissement de Paris dépendant d'une mairie centrale. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. On est guidé, et à certains moments on se sent un peu corseté, mais il y a aussi des aspects tout à fait positifs. Donc beaucoup des points que vous avez signalés relèvent d'une discussion au sein de la majorité municipale. Mais je note que vous abstiendrez néanmoins. Donc, effectivement, dans des votes, on peut se retrouver. Après, les motivations du vote sont quelquefois différentes. Monsieur Comet.
Bien, merci, Monsieur le maire. Nous comprenons parfaitement que cette charte du budget participatif ne résout pas tous les problèmes et qu'il y a un certain nombre d'imprécisions ou d'inconnues qui sont autour. Alors nous sommes tout à fait d'accord sur l'idée de voir s'il est possible effectivement d'augmenter d'un mois le dépôt des projets parce que effectivement c'est probablement un peu tard. Je pense qu'il y a un point qui est encore plus compliqué et qui, si j'ai bien compris, est toujours en discussion, c'est l'articulation pour les conseils de quartier qui seront inclus dans les quartiers proposés par M. Baudrier pour la nouvelle esthétique. Comment est-ce qu'on va arranger et le budget de cet ensemble et le budget des conseils de quartier. Donc je remercie de ce côté-là M. le maire d'avoir fait intervenir Jacques Baudrier, d'avoir poussé la candidature du 6e de façon à ce que la partie nord de l'arrondissement puisse être inclue dans ces quartiers sur la nouvelle esthétique, ce qui veut dire qu'il y a 3 conseils de quartier dans lesquels le budget participatif et ou au moins la relation entre le budget participatif et le budget accordé à ces quartiers devrait être précisée, de même que la façon dont tout ça, dont se fait la concertation. Oui, il y a un certain nombre d'inconnus, disons, de précisions à apporter à cette charte. Ça ne nous semble pas une raison pour voter contre et nous abstenir. Donc, nous voterons pour cette charte du budget participatif.
Merci beaucoup. Donc, je propose de passer au vote. Madame Hervieux.
Oui, merci, Monsieur le maire. Juste pour compléter le propos de mon collègue François Comé, simplement quand même pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, le budget participatif, c'est une révolution. C'est Anne Hidalgo qui l'a proposé, qui l'a mis en place. Elle veut aujourd'hui étendre ce dispositif. Ce sont les Parisiens qui peuvent mettre à profit tout un nombre d'idées pour valoriser leur territoire. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et vraiment, je vous incite, parce que là, je lis les chiffres, effectivement, sur 2019... On a 1200 personnes dans le 6e qui ont voté sur 143 000 au total. Ça ne représente même pas 1% des votants. Donc je ne pense pas que les habitants du 6e soient particulièrement peu enclins à participer à ce type d'initiative. Au contraire, mais je m'interroge aussi, et c'est pour ça que j'encourage vraiment la nouvelle équipe municipale à valoriser ce budget participatif, à communiquer, à mettre dans l'arrondissement des points où les Parisiens et les habitants du 6e pourront justement proposer des projets, à vraiment valoriser ça, parce que j'ai le sentiment, enfin je ne sais pas, à travers les chiffres qui ressortent là, c'est quand même étonnant qu'on soit si peu participants à ce projet qui est extrêmement intéressant. Intéressant et qu'on ait eu si peu de projets déposés, alors que c'est un outil formidable. Donc j'espère vraiment que pour ce nouvel exercice, on pourra demander, comme le disait Monsieur Comé, à étendre la période de dépôt de projets. Mais vraiment, il faut que l'équipe municipale soit en première ligne et proactive sur la communication qui va être faite aux habitants du 6e. Et je pense qu'il faut des points physiques clés dans l'arrondissement pour que les habitants puissent voir aussi physiquement. Ils ne sont pas tous sur Internet, mais qui puissent se voir, qui puissent aller se renseigner auprès de personnes physiques dans tout un tas de lieux. Je pense que c'est très important, la communication, et d'autant plus si nous avons peu de temps pour pouvoir relever un petit peu ce chiffre qui est quand même assez faible au vu de la participation globale à l'échelle de Paris.
Merci infiniment. Si on peut faire
Monsieur
mieux...
Le maire,
pardon,
je
oui.
veux juste répondre que bien évidemment... Nous chercherons à beaucoup communiquer, mais comme je l'ai précisé, la direction de l'information et de la communication de la ville de Paris n'a envoyé aucun support de communication pour le moment. Donc de toute façon, c'est très compliqué pour commencer à travailler sur ce dossier. Voilà.
Mais on se fera le relais auprès de la ville de Paris, auprès de Madame Thoragnan. Je pense que cette contrainte qui est exprimée dans d'autres arrondissements aussi, donc en effet, le délai est assez restreint, donc on fera remonter pour justement que l'exercice soit réussi et que ça puisse bénéficier à l'ensemble des habitants du 6e.
Merci à tous pour votre mobilisation pour cette bonne cause. Alors je vous propose néanmoins de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Il s'abstient. Madame Kiss, Madame de Compregnac et Madame Berthomier. Qui vote contre? Voilà, vous avez les votes. Et moi, avec le pouvoir de Monsieur Passelec, qui vote pour Monsieur Comet et Madame Hervieux? Ça vous va? Le compte est bon? C'est parfait. Alors, nous allons retrouver sans doute une certaine... Ah, peut-être pas l'unanimité, mais en tout cas une certaine forme, en tout cas, d'approbation pour le dossier suivant, que je vais rapporter rapidement et qui concerne des parcs de stationnement École de médecine et André Honorat. Alors, je vous fais grâce de la délibération qui est assez complexe. Je voulais simplement rappeler...
Il s'agit de deux parcs de stationnement qui sont relativement anciens, encore que le parc de stationnement École de médecine dénommé Odéon a été rénové dans les années récentes. Il est confié à la SAMS, comme le parc de stationnement André Honorat, qui est situé à l'intersection des avenues de l'Observatoire et de la rue Auguste Comte. Le premier, Odéon, est un parc mixte, c'est-à-dire résidentiel et de stationnement rotatif, alors que le parc de stationnement André Honorat est principalement à dominante longue durée, puisqu'il a fait l'objet de ventes par concession. Alors, je vais essayer de synthétiser au maximum le projet qui nous est proposé. Sur le plan juridique, il s'agit de faire coïncider les deux concessions qui se terminaient toutes les deux en 2022. Donc on nous propose de les rallonger de 15 ans pour les faire coïncider quasiment. Elles auront leur terme qui seront très proches puisque l'une sera fixée en rajoutant 15 ans à 2022. Donc ça sera... Le terme de la première pour le parking Odéon, ce sera le 27 avril 2027 et le 27 avril 2037 pour Odéon et le 7 avril 2037 pour Honorat. Mais je pense que là, alors, outre les opérations classiques qui sont demandées aux concessionnaires, remise en état des installations électriques, remise en état de la sécurité, traitement des fissures, modernisation, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va demander aux concessionnaires de notamment implanter des bornes de recharge pour véhicules électriques, puisque vous savez que les nouvelles réglementations prévoient qu'effectivement la transition pour du véhicule thermique vers le véhicule électrique interviendra à l'horizon 2030. C'était 2030 et je crois qu'en 2040 l'ensemble des véhicules thermiques devrait disparaître. C'est pour ça qu'il y a des investissements importants qui vont être faits dans ces deux parkings. C'est très important, même si s'agissant du parking Honorat, les actuels amodiataires ont des concessions qui sont excessivement longues, puisque j'ai cru voir dans le document qu'elles normalement s'achevaient en 2057. Oui, c'était des amodiations d'une durée de 65 ans courant jusqu'en 2057. La deuxième modification profonde, c'est également le fait qu'une partie importante du parc va être réservée aux cycles et notamment permettre effectivement aux possesseurs de vélos électriques de pouvoir utiliser ces parkings, parce que vous savez que le vélo électrique se développe beaucoup, mais qu'un problème récurrent pour les utilisateurs de vélos électriques, c'est de les garer. Or, notamment dans le 6e haussmannien, nous avons des possibilités dans le 6e pré-haussmannien, et ça concerne effectivement principalement les quartiers Monet, Saint-Germain-des-Prés et Odéon. Il est très difficile d'avoir des locaux suffisamment vastes pour garer des vélos électriques. C'est la raison pour laquelle le parking école de médecine, qu'il soit adapté à l'utilisation des vélos électriques, ça me paraît une très bonne chose. Et comme on sait qu'en matière de mobilité, les choses évoluent très rapidement, il est prévu dans le document qu'il y aura des révisions quinquennales qui sont prévues. Ça veut dire qu'on pourra aussi bien revoir les tarifs de stationnement, puisque vous savez que les choses évoluent rapidement. Et il y a bien sûr une forte demande des usagers de ces parkings de voir, en tout cas, sinon une stabilisation, voire une baisse d'un certain nombre d'abonnements. Parkings qui sont d'ailleurs quelquefois pour certains d'entre eux moins fréquentés. Et deuxièmement, ça permettra peut-être, si les Parisiens ont moins de voitures, s'ils utilisent différemment, de détendre l'usage de ces parcs de stationnement pour éventuellement d'autres engins de mobilité. Enfin, j'achèverai mon propos en vous disant que le service de la propreté n'a pas été oublié, puisque sont prévues également des prises électriques qui permettront à des engins de propreté de venir se recharger dans le parc Odéon, ce qui permettra de faciliter l'usage, effectivement, des véhicules électriques nécessaires à la propreté de nos quartiers. Je vous engage donc, mes chers collègues, à voter favorablement cette délibération qui va dans le bon sens, délibération complexe. En rappelant que la CMS est une société de stationnement qui est dont la ville ou la ville de Paris est majoritaire. Mais je vois le doigt de Monsieur Flaubert se lever, donc je lui donne bien volontiers la parole.
Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Moi je voulais juste dire une chose, c'est que la semaine dernière j'ai été accompagner mon fils de 4 mois chez le pédiatre boulevard du Montparnasse. Alors un côté c'était le 6e, un côté c'était le 14e. Je roule en voiture électrique. Je me suis garé donc dans le parking au 6e sous-sol. Le parking était ouvert. Indigo, voilà. Montparnasse, à l'angle, on va dire, avec la rue de l'Ombre. Enfin, peu importe. Les deux ascenseurs étaient cassés. J'ai trouvé des gens qui étaient comme moi peinants. Moi, j'avais mon fils de 4 mois dans les bras, dans le cosy. Mon fils fait 8 kilos, mais peu importe. Il est comme son papa, bien nourri. 6 étages à remonter, 6 étages à descendre. Pas de personnel dans le parking. Pas de charge de la voiture électrique. Je roule en voiture électrique, je n'ai pas de charge. Et moi, je trouve qu'il y a un niveau de qualité de service, donc... Ascenseur cassé, les deux ascenseurs cassés. Il faisait froid la semaine dernière et mon fils est à 4 mois. Ascenseur cassé, pas d'intervenant, personne sur le parking, personne sur le site. Et en fait, voilà, personne à qui parler. Et voilà, et avec mon fils, il descend de 6 étages. Alors ça m'a fait faire un peu d'exercice, c'est probablement bien. Mais je pense que le niveau de service n'est pas digne du niveau de paiement et de ce qu'on paye pour les prestataires. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense la majorité municipale, mais je trouve vraiment que si on essaye de faire un effort de rouler en voiture électrique, on n'a pas de charge, pas d'ascenseur, personne sur place. Voilà. Et évidemment, on ne peut pas se garer ailleurs. Ça, à la limite, on peut le comprendre. Mais on essaie de jouer le jeu, mais ça fonctionne pas. Merci.
Essayer de faire en sorte que ça marche mieux. Et je dois avoir des contacts avec la société Indigo, qui est le nouveau nom de Vinci Park, pour qu'effectivement, sur ce grand parc, qui est très ancien, puisque c'est un parc très long, avec plusieurs centaines de places, qui est d'ailleurs pas très cher. Alors, je sais pas si c'est parce que les équipements sont délabrés, qu'il est moins cher que d'autres. Mais en tout cas, on va essayer de voir comment améliorer les choses. Mais c'est vrai qu'on a peut-être, effectivement, au cours de ces dernières années, qui sont aussi des années un peu compliquées, hein, chacun l'a noté, qu'on essaie d'améliorer les choses pour ce grand parking qui est à la lisière du 6e et du 14e arrondissement. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Alors, nous en venons maintenant aux vœux qui ont été déposés. Il y a 5 vœux qui nous sont soumis. Un premier vœu que je vous propose, ensuite 2 vœux qui ont été déposés par Madame Kiss, 1 vœu par Monsieur Comet et 1 vœu par Madame Hervieux. On va aller assez vite, hein, puisque le temps passe, en vous disant que j'appellerai à voter effectivement. Enfin, on va les présenter. Vous allez pouvoir les présenter. Je vais commencer par les présenter. Alors, le premier vœu que je vous propose, c'est un vœu dont vous avez pris connaissance, qui concerne l'ancienne clinique de Tarnier, dont j'ai eu l'occasion de parler beaucoup au cours de ces dernières semaines, et j'ai parlé à un certain nombre d'entre vous. Les considérants sont assez éclairants. Je voulais vous dire que j'avais eu des contacts d'ailleurs avec le cabinet de la maire de Paris au cours des derniers jours, et j'ai le sentiment que l'affaire progresse, et j'en suis très content. La difficulté étant de faire, d'obtenir de la direction générale de la PHP une décision finale, car en réalité, pour employer un terme trivial, nous sommes menés en bateau depuis des années sur ce dossier. J'ai l'impression que je fais un Vendée Globe en permanence avec la clinique Tarnier. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais si bien évidemment vous voulez intervenir, vous pouvez le faire, sinon je vous proposerai de passer au vote. Monsieur Comet.
Oui, merci Monsieur le maire. Nous partageons totalement votre souci d'utiliser à plein et le plus vite possible le bâtiment Tarnier. Et votre souci est de faire en sorte qu'au niveau de la mairie de Paris, ça reste un dossier qui soit autant que possible en haut de la pile. Cependant, la formulation de votre vœu appelle de notre part un certain nombre de remarques, puisque vous parlez d'une situation scandaleuse qui pourrait laisser penser que rien ne se passe. Alors, ce n'est pas ce que vous dites, et c'est effectivement pas ce qu'on constate, puisque ce qu'on voit à la mairie de Paris, c'est qu'il y a maintenant un accord de principe entre la mairie de Paris, l'APHP, l'Université Paris-Descartes, pour l'utilisation du bâtiment Tarnier, et notamment autour d'un centre de formation de sages-femmes et de consultation gynécologique. Donc le projet ou le but final a l'air visible, de ce que nous comprenons. C'est un réaménagement qui coûte extrêmement cher. Et là aussi, le travail a été fait, tout ça a été chiffré, et donc on parle d'une enveloppe entre 13 et 15 millions d'euros hors logement, puisqu'il est question de faire aussi des logements pour chercheurs, mais là, la RIVP arrive à faire de l'autofinancement. Et donc, c'est un poste à part, mais qui est pris en compte, évidemment, dans la redéfinition de ce bâtiment. 13 à 15 millions d'euros, ça veut dire très clairement que la mairie de Paris va solliciter une participation financière de la région. La région, on a des élections pour l'instant, donc on va mettre un certain temps avant de pouvoir terminer la négociation entre ce qu'est la ville et ce qui dépend de la ville et ce qui dépend de la région. Ceci dit, le projet n'est pas encore terminé, donc on peut parfaitement travailler pendant ce temps pour définir complètement le projet, de façon à ce que, une fois finalisé l'accord financier entre la ville et la région, les travaux puissent être lancés. Alors, concrètement, il s'agit quand même aussi, si on veut faire des travaux, d'une opération à tiroir, c'est-à-dire qu'il faut déménager les services et non pas en installer de nouveaux, si nous voulons un jour pouvoir commencer les travaux. Et la réflexion actuellement, elle porte quand même beaucoup plus sur savoir ce qu'on va faire des services de dermatos qui sont ouverts que vouloir rajouter encore d'autres consultations. Parce que si on rajoute des consultations, le jour où on voudra les fermer pour faire les travaux, on nous expliquera qu'on ne sait pas où les mettre, et donc c'est quand même ennuyeux. Sur la dermato d'ailleurs, l'idée est de les amener à l'Hôtel Dieu. Pour les amener à l'Hôtel Dieu, malheureusement, le délai des travaux dans l'Hôtel Dieu a reculé, et donc on risque d'en pâtir par effet un peu de ricochet. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au milieu, c'est un peu plus difficile. Et donc, il nous semble vraiment qu'il ne faut pas demander à mettre des nouveaux services pérennes. Alors, pour une salle de vaccination, ça peut être effectivement une très bonne idée, parce que la salle de vaccination, on sait qu'au bout d'un certain temps, ça sera fermé. Des consultations, c'est très différent. Donc, tout ça pour dire que notre position, nous ne voterons pas un vœu qui ne tient pas compte des discussions en cours et qui propose en plus une utilisation temporaire qui ne fera que retarder le début des travaux définitifs.
Merci, Monsieur Comet. Alors, je vais vous parler un peu franchement. En vous entendant, j'ai le sentiment d'être revenu 2 ou 3 ans en arrière et d'entendre le discours de l'APHP. Alors, je ne vous fais pas de procès, ne le prenez pas mal, je ne vous fais pas de procès personnel, mais ce que vous me dites, c'est exactement ce que les représentants de l'APHP me disaient il y a 3 ans. Quantôt, on évoquait déjà le départ, effectivement. Et ce que vous m'avez particulièrement inquiété, c'est la fin, d'ailleurs, quand vous me parlez du départ de la consultation de dermatologie, qui est effectivement la consultation de dermatologie historique du professeur Escande, qui était un ami de Jacques Chirac. Vous voyez que ça nous ramène un peu en arrière. Alors, elle a un peu diminué. Après, il y a eu le docteur Gell avec la consultation du VIH, etc. Mais si on en est toujours là, j'ai peur que nous mourions. Alors, il y a 2 façons de mourir. On peut mourir politiquement, ça peut arriver à certains assez rapidement. On peut mourir physiquement, ça malheureusement on l'a vu, ça nous arrivera tous, je l'espère le plus tard possible. Mais si on continue à gérer Tarnier comme ça, eh bien écoutez, j'en serai navré. Après, c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris. Si la ville de Paris veut continuer à le laisser à la PHP, qui l'a transformé en cul de basse fosse, qui ne l'entretient pas, dont les pierres tombent, c'est sa responsabilité. Hein, moi, je suis parfaitement au courant, effectivement, du projet. Vous avez cité, effectivement, les logements de chercheurs. C'est effectivement une très bonne idée. On peut y rajouter un certain nombre de choses. Les écoles de sages-femmes, elles sont déjà là. Elles sont venues du 12e arrondissement. Elles sont déjà là. Et vous n'avez qu'une partie limitée qui est utilisée. Donc, j'en appelle véritablement sur cette affaire. Je ne lâcherai pas. J'estime que la maire de Paris est présidente du conseil de surveillance de la PHP. Si elle veut continuer à se laisser mener en bateau par M. Hirsch, ça la regarde. Mais moi, en tout cas, je n'accepte pas cette situation. Après, vous avez parfaitement le droit de ne pas voter ce vœu. C'est tout à fait possible. Mais sachez, en tout cas, que je n'accepte pas cette situation et que j'espère, d'ailleurs, que certains membres du cabinet de la maire de Paris nous aideront à la régler. Mais je ne vous en veux absolument pas, je vous le dis. Mais certains des éléments que vous avez, à mon avis, ne me semblent plus d'actualité. Et surtout, reflètent beaucoup trop la position de la PHP, qui a beaucoup de soucis en ce moment. Ces soucis, d'ailleurs, c'est la conséquence d'une politique, je dirais, de réduction de lits qui a été faite au cours des dernières années. Et la direction de la PHP aurait bien intérêt, d'ailleurs, à changer son fusil d'épaule. Et j'ai d'ailleurs demandé à la maire de Paris, à terme, de constituer une MIE, c'est-à-dire une mission d'enquête sur la PHP, dans son intérêt même, puisque c'est à un moment, on est tôt ou tard rattrapé par la patrouille, comme on dit. Donc, tôt ou tard, si vous voulez, les problèmes qu'on connaît à la PHP, y compris dans la gestion de cette crise sanitaire, lui seront reprochés. Il est bon, quelquefois, d'entendre, effectivement. Alors, c'est valable pour moi, hein, c'est valable pour moi. De temps en temps, j'entends aussi ce qu'on me dit, hein. Je suis pas autiste. Là, dans cette affaire, on a le sentiment qu'il y a l'autisme, c'est parfaitement développé. Ça ne vous concerne, cette réflexion ne vous concerne pas. Mais, je le dis parce que c'est un sujet qui m'est très à cœur et je ne trouve pas normal, si vous voulez, qu'un bâtiment de cette ampleur, qui bénéficie de la protection de la clause légataire, ne soit pas mieux utilisé. D'où le terme de scandaleux. Madame Kiss.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors moi, je suis partagée concernant ce vœu. Je suis d'accord avec mes collègues, monsieur Comet et certainement Céline Hervieux, que le ton est vraiment très martial, hein, si je puis me permettre, et peut-être un peu trop polémique à mon goût. Cependant, je pense qu'il est intéressant de souligner le fait que ces locaux pourraient avoir un usage temporaire. Ce n'est pas parce que l'usage sur le long terme n'est pas encore complètement défini qu'on ne peut pas en faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce quelque chose. Ça pourrait être pour moi quelque chose un peu comme les grands voisins. Bon, là je pense que vous partagerez certainement pas cette opinion, mais je pense qu'il serait vraiment intéressant de faire quelque chose de ces locaux malgré tout, indépendamment de l'utilisation finale. Donc du coup je m'abstiendrai sur ce vœu. Merci.
Très bien. Chacun s'étant exprimé, je vous propose de voter. Donc qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Madame Kiss, qui vote contre, Monsieur Comet et Madame Hervieux, et qui vote pour, donc les personnes qui ont levé le doigt. Et il est adopté à la majorité, et c'est une affaire de toute façon dont on réentendra parler. Une alternative étant d'ailleurs, sans attendre, tout en continuant à réfléchir sur la composition des acteurs qui l'utiliseront, d'intervenir déjà sur le bâtiment, parce que c'est la responsabilité de la ville qui est quand même en partie engagée, du moins conjointement avec l'assistance publique. Bien, nous en venons au vœu présenté, le premier de Madame Kiss, relatif à un espace public inclusif. Il est très développé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ma chère collègue ?
Monsieur le maire, merci. Donc, ce vœu, en fait, il aurait presque pu être scindé en deux. D'une part, la suppression des dispositifs anti-SDF et d'autre part, ce qui est plus particulièrement du confort des personnes âgées, des flâneurs, etc., de l'espace inclusif. En fait, pour moi, c'est vraiment la même chose, en fait. C'est l'idée, je prendrai juste comme exemple les bancs qu'il y a maintenant de plus en plus vers le bout de l'espace du boulevard Raspail vers le boulevard Montparnasse. C'est l'idée d'avoir des vrais bancs où on puisse s'accouder, où on puisse ne pas être comme ça en suspension. C'est un petit peu comme si on disait au SDF, ben voilà, vous pouvez pas vous appuyer, vous êtes là juste de passage, on tolère que vous vous asseyez deux secondes et après dégagez un petit peu. Bon. C'est peut-être un peu brusque ce que je dis là, mais pour moi, c'est vraiment important que l'espace public soit inclusif, et ça ne concerne pas juste les SDF, ça concerne aussi les personnes âgées qui ont besoin de se reposer, ça concerne aussi les flâneurs, les poètes, les étudiants, enfin tous les promeneurs qui doivent pouvoir profiter de l'espace public. Et je prendrai aussi un petit exemple, celui de la place Saint-André-des-Arts. Pareil, là, vous n'avez pas de banc, vous avez juste les bancs des cafés. Donc, il faut payer, il faut consommer pour s'asseoir. Et je pense que c'est vraiment dommage et qu'on aurait tout à gagner, au contraire, à mettre des vrais bancs un peu partout. Et que voilà, que les flâneurs, les poètes, les SDF, les promeneurs, tout ça trouvent leur place. Donc voilà, ce vœu fait aussi référence à un vœu qui a été déposé par l'exécutif et adopté en Conseil de Paris. Merci.
Alors, il fait allusion peut-être à un vœu dont j'ai pas eu connaissance. Bon, moi, je vous rassure, j'appellerai positivement, à voter positivement votre deuxième vœu. Mais celui-là, je ne peux pas l'accepter parce que je considère qu'il est aussi du ressort du Conseil de Paris. Je note que vous me dites, effectivement, on pourra réimplanter éventuellement des bancs dans l'espace public. Après, moi, je pense que ça pourra justement être évoqué dans les conseils du quartier, car, attention, il y a eu des expériences. Vous citez la place Saint-André-des-Arts, je me souviens qu'il y a eu des pétitions innombrables à une certaine époque. Vous aviez énormément de personnes, vous aviez à l'époque, ça s'appelait des beatniks. Ça s'appelait des beatniks, qui avaient des chiens. Puis ils écoutaient de la musique. Et ils s'énivraient. Alors moi, je veux bien que tout est possible. Hein. J'ai rien contre l'alcool, j'ai rien contre les chiens, j'ai rien contre les beatniks. Mais bon, il y a un moment où les gens qui habitent sur la place, il y en a encore, hein, qui habitent dans ce quartier. Et il faut souhaiter qu'il y ait quand même si Paris se vide, qu'il y a encore des Parisiens et des Parisiennes qui y habitent, eh bien, qui n'étaient pas favorables, effectivement, au fait que ces personnes stagnaient. Occupait des lieux de façon très prégnante et générait des nuisances considérables. Mais là, on peut en réimplanter, on en remplantera. On en a réimplanté, par exemple, à l'angle de la rue Dauphine et du quai des Grands Augustins, face au Pont Neuf. Ça fonctionne bien. Moi, je pense que c'est typiquement le type de sujet sur lequel les conseils de quartier qui ont une vision fine des choses, qui intègrent des habitants des conseils, pourront se prononcer. Et puis le reste, c'est plutôt de la responsabilité du Conseil de Paris. J'ajoute que vous nous demandez de faire d'aller examiner. Les agents de l'espace public parisien ne sont pas suffisamment nombreux. Ils ont beaucoup de mal déjà à faire leur travail de tous les jours. Combien de fois c'est nous qui leur signalons des poubelles qui débordent, des graffitis enlevés, etc. On peut pas leur demander tout et n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'est un dossier que vous devez reprendre au niveau parisien. Et dans votre groupe, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. J'ajoute que vous me demandez de signer une déclaration des droits des personnes en lien avec la Fondation Abbé Pierre. C'est à la mairie de Paris, là encore, de la signer. C'est pas à une mairie d'arrondissement qui n'a pas de personnalité morale, je vous le rappelle, qui n'a pas la capacité de s'engager sur le plan juridique. Alors après, je peux m'amuser à signer des bouts de papier qui n'ont aucune valeur, mais ça me paraît pas très sérieux. J'en profite pour vous dire qu'on essaiera de réunir un comité vélo dans le courant du mois de mars. Voilà. Donc je vous propose de délibérer sur ce vœu. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie, il est rejeté. Alors, le vœu suivant, relatif à la promotion des initiatives positives, je suis tout à fait d'accord. Ça nous fait un peu de bien. C'est vrai que les initiatives positives, on n'en compte pas des masses aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut effectivement le voter. Après, ma chère collègue, je ne serais peut-être pas d'accord sur toutes vos propositions, puisque je l'ai lu avec attention. Quand vous mettez dans le deuxième alinéa que la mairie diffuse les initiatives locales en ce sens d'acteurs du territoire associatif, professionnel, individu ou groupe informel, pourquoi pas? Mais après, il faut quand même regarder un peu ce qu'ils proposent. On aura peut-être un débat là-dessus. On aura un débat entre nous, etc. Mais sur le fond, on ne peut pas être contre le positivisme, notamment dans l'arrondissement qui abrite la maison d'Auguste Comte. Donc, je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Unanimité. Enfin, c'est peut-être le seul vœu à l'unanimité ce soir, non? Je ne sais pas. Grâce à vous. Non. Ensuite, nous avons le vœu de Monsieur François Comet relatif à l'avenir des ateliers de la Grande Chaumière. Je suis tout à fait d'accord pour le voter également. Si vous voulez rajouter quelque chose rapidement, parce que le temps passe.
Écoutez, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est en fait l'info sixième du 15 décembre qui nous a annoncé la fermeture imminente des ateliers de modèles vivants et de l'Académie Charpentier, alors que on n'était pas obligatoirement au courant, et je trouve qu'on a effectivement extrêmement peu d'informations de façon générale sur ce que va devenir cet ensemble qui a été acheté par un homme d'affaires français travaillant en Russie, qui pour le moment n'est pas classé, donc je pense qu'il faut être particulièrement prudent sur les travaux qui vont être faits. Et le vœu, en fait, essaye de répondre à trois impératifs. L'un, c'est l'urgence. Si effectivement on ferme des lieux, est-ce que la mairie du 6e peut aider avec la mairie de Paris et le propriétaire à la relocalisation temporaire des activités? Ensuite, je pense que nous avons besoin d'une visibilité. Alors, d'ailleurs, pour l'urgence, je remarque que pour l'instant, aucune demande de travaux n'a été déposée à la direction de l'urbanisme. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que ces travaux vont commencer et quelle est exactement l'urgence. Mais là, vous en savez peut-être plus que moi. Sur la visibilité, dans l'info sixième, on nous dit que le propriétaire va développer un concept de réinvestissement des lieux autour d'espaces d'exposition et de création de grandes exigences. Alors là, mes chers collègues, c'est un sabir qu'on a un peu de mal à traduire concrètement. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et je pense que là-dessus, c'est quand même important, vu ce que représente la Grande Chaumière pour le 6e arrondissement, qu'on ait un peu plus de visibilité et qu'on puisse effectivement, éventuellement, faire part d'un certain nombre de remarques. Et la pérennité, enfin, nous souhaitons que la mairie du 6e demande le classement au titre des monuments historiques, des ateliers ou d'une partie des ateliers de la Grande Chaumière, puisque c'est quelque chose qui risque de disparaître. Et je pense qu'il faut être particulièrement attentif au fait que, durant les travaux de renforcement des structures, on ne se trouve pas avec quelque chose qui floue d'un seul coup, fait disparaître ce qui aurait pu être sauvegardé, parce que le chantier a fait que il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Voilà donc le sens de notre vœu.
Merci, mon cher collègue. Alors, je commencerai par la fin, mais je serai volontairement bref. L'inscription est bien en cours. L'inscription est bien en cours. On a travaillé il y a 2 ans avec Christophe Girard, et il y a actuellement une instance de classement au titre d'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui est devant la commission régionale de protection. C'est Madame Chauvin qui a instruit les choses. Nous avons réitéré par courrier récemment la demande, et je sais que le propriétaire est en train à missionner effectivement une équipe, qui est une équipe d'architectes qui est connue de la mairie de Paris, qui va déposer bientôt des demandes de travaux, puisque en réalité les ateliers de la Grande Chaumière étaient dans un état de vétusté avancé. On risquait même, premièrement, l'effondrement d'une partie des locaux des verrières. Deuxièmement, la sécurité des installations électriques n'était pas assurée. Et donc, en parallèle, il va y avoir sans doute les opérateurs, le propriétaire va se concerter avec les services des monuments, des bâtiments de France et des monuments historiques pour arriver effectivement à une définition exacte des surfaces qui seront totalement protégées, et notamment les grands ateliers, les grands ateliers historiques qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ont vu passer des générations de peintres. Donc ça évolue positivement, et ce que je vous propose, c'est dès qu'on le pourra, de vous passer une petite note sur ce qui l'avancement des choses. Ensuite, il y aura sans doute pas de travaux avant l'été, au plus tôt. Et après, effectivement, sans doute, à relocaliser, comme vous l'avez très bien dit dans votre vœu, essayer de relocaliser un certain nombre d'activités. Donc je dirais que les choses évoluent plutôt positivement, même très positivement, mais il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. Donc je crois que je suis tout à fait favorable à ce que nous prenions ce vœu qui permettra d'exprimer un certain nombre de choses et de mobiliser l'ensemble des acteurs nécessaires. Et si, comme je l'espère, dans 2 ans, par exemple, à l'issue des travaux, nous avons réussi à sauvegarder ce lieu emblématique du Montparnasse du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui a eu son heure de gloire, même de la fin du XIXe siècle jusqu'à ces jours, je crois que ça sera une très bonne chose. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous en venons maintenant au dernier vœu. Madame Hervieux, est-ce que vous voulez le présenter ou le maintenir? Si vous voulez le...
Oui, je veux bien le présenter et je vous donnerai ma décision quant à ce vœu suite à ma présentation. En fait, nous avions travaillé sur ce vœu avec Monsieur Comé et Madame Kiss pas avec vous, Madame Kiss, mais en tout cas avec Monsieur Comé, sur la réflexion, en se disant qu'il était nécessaire de montrer une forme de proactivité sur la mise en place d'un lieu de vaccination dans le 6e. Mais en réalité, on se disait quand même, Monsieur le maire étant très consciencieux, de toute évidence, il va y avoir un lieu de vaccination organisé dans le 6e arrondissement. Quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte dans un article récent du Parisien que tous les arrondissements de la capitale ont bénéficié de l'ouverture dès ce lundi, entre ce lundi et ce mercredi, d'un centre de vaccination, avec à l'exception un village d'irréductible, j'ai nommé le 6e arrondissement, qui donc n'a pas à ce jour de centre de vaccin opérationnel à la demande du maire, donc une ouverture qui a été retardée à la demande du maire, mais nous ne savons pas pourquoi. Donc admettez que pour l'arrondissement le plus vieillissant de Paris et donc avec une population particulièrement vulnérable, je considère et nous considérons que ce n'est pas entendable. J'entends toutes les contraintes logistiques, le fait de devoir organiser les choses correctement dans un bon cadre sanitaire, mais honnêtement, si l'ensemble des arrondissements de Paris ont été capables d'organiser les choses, je ne comprends pas pourquoi le 6e est en retard sur ce point-là. Ça fait plus d'un mois que le vaccin est annoncé, que l'arrivée du vaccin est annoncée. Ça fait plus d'un mois que la ville de Paris et notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, organise hebdomadairement, voire plusieurs fois par semaine, des réunions avec l'ensemble des maires d'arrondissement et l'exécutif pour organiser justement la mise en œuvre du vaccin, que les maires d'arrondissement se sont mobilisés pour mettre à disposition des lieux. Donc moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Le vaccin, c'est la seule issue possible pour ce virus. Ça a fait innombrablement de dégâts, autant matériels que psychologiques. On le sait, le vaccin, c'est l'issue de secours. On en a besoin. On est dans un arrondissement vieillissant, je l'ai dit. Donc, véritablement, moi, je m'étonne et je pense que c'est partagé par d'autres de ce retard. D'autant plus que vous aviez vous-même, monsieur le maire, et à juste titre d'ailleurs, été agacé par le retard pris par le gouvernement et ce manque de stratégie finalement vis-à-vis de la vaccination qui a eu lieu. Donc je ne comprends pas pourquoi vous reproduisez sur le territoire quelque chose que vous avez vous-même dénoncé à l'échelle nationale. Donc le fait que les doses soient disponibles ou pas, ça n'est pas de notre ressort, j'entends totalement. Par contre, la mise à disposition du lieu, non mais tous les arrondissements sont dans la même situation. La mise à disposition du lieu, le fait de pouvoir commencer à communiquer sur une adresse, c'est important pour les gens. Même si les doses sont en nombre réduit pour l'instant, l'important c'était de mettre en place les choses. Il n'y a pas de raison que le 6e soit, encore une fois, en retard par rapport à cette mise en place-là. C'est extrêmement important. Je pense que c'est une forme, chaque jour qui passe, c'est un retard qu'on prend et c'est une forme de mépris, je suis désolée, pour l'ensemble des habitants du 6e qui attendent de se faire vacciner, qui attendent d'être protégés par le virus. Donc voilà, ça peut paraître un peu fort, mais et par la suite, j'ai été rassurée parce que votre cabinet nous a informé.
Commencez à m'inquiéter.
Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai. Vous êtes tout de suite revenu vers nous suite à notre étonnement pour nous indiquer qu'il y aurait.
Monsieur Godet
est revenu vers nous pour nous annoncer qu'il y aurait effectivement dans les locaux de la mairie du 6e un lieu, mais malheureusement nous n'avons pas de date, nous ne savons toujours pas quand est-ce que ça aura lieu, il n'y a aucune information sur le site de la mairie du 6e. Encore tout à l'heure, j'ai échangé avec un agent qui me disait qu'il y a des gens qui viennent physiquement, des personnes âgées qui se déplacent.
Et je ne dis pas que vous avez dépassé les bornes, vous avez dépassé votre temps de parole. Alors, Madame Berthommier, je sens que vous êtes un peu en boucle, là. J'espère que c'est pas trop grave. Vous n'avez pas des problèmes psychologiques, j'espère, ma chère collègue. Et Madame Berthommier va vous donner les informations que vous souhaitez et régulièrement, vous aurez des informations au cours des prochaines semaines. Moi, je ne suis pas, vous savez, on est un peu différents. Moi, je ne suis pas dans la communication outrancière. Dans ce pays, et malheureusement également dans beaucoup de communes, on communique et après on agit. Ce qui se traduit par des situations qui sont particulièrement graves et qui renforcent la détresse psychologique, morale de nos concitoyens. Il suffit d'ouvrir la télé, moi je l'ouvre le moins possible, pour effectivement s'apercevoir de un certain nombre de choses que vous avez dites. On a fait tout reporter dans ce pays sur la vaccination, puisqu'on a fait comprendre qu'entre le masque et la vaccination, il n'y avait rien. Ça m'a semblé un peu stupide. Les gens sont lassés des masques, je pense beaucoup d'entre nous ici, ils attendent les vaccins, à juste titre. Mais encore faut-il qu'il y ait des vaccins. Hier, par exemple, j'avais, pendant les obsèques de Marielle de Sarnez, j'avais la maire du 5e à côté de moi, qui me disait que son centre, qui était d'ailleurs un centre Covisan de test, transformé en centre de vaccination, que les doses étaient toujours pas là à 15h30. Et il y avait des dizaines de personnes qui attendaient. Alors, je vous ai, dans l'article du Parisien, effectivement, le centre du 6e ne figurait pas. Mais dans le document de l'ARS, il est bien marqué qu'il y aurait des 5 centres supplémentaires qui ouvriraient au début du mois de février. Iris Berthommier, qui est en charge de cette affaire sous mon autorité, va vous donner les éléments tout de suite. Le centre de la mairie du 6e ouvrira dans les locaux de l'ancien tribunal qui sont en train d'être aménagés, avec effectivement des médecins, des infirmiers que nous sommes en train de chercher, car la mairie de Paris, elle aussi, est dans la communication. J'ai entendu, Madame Hidalgo, mais les services de la mairie de Paris sont incapables de nous fournir des médecins et des infirmiers, parce que la santé publique française dans ce pays, qu'il s'agisse de la santé publique d'État ou de la santé publique communale, a été désarmée. Mais je ne vous en fais pas le reproche. Je n'en fais pas le reproche à Madame Hidalgo. Donc, de grâce, pas de leçons, pas de grande envolée lyrique. Quant à la population vieillissante, je pense que les habitants du 6e apprécieront effectivement votre qualificatif. Vous savez, on vieillit tous, ça vous arrivera aussi de vieillir. Après, il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui sont vieux dans leur tête alors qu'ils sont jeunes physiquement. Et puis il y a des gens qui sont âgés et qui restent particulièrement jeunes. Oui, les gens du 6e... comme beaucoup, attendent les vaccins. Les vaccins n'arrivent pas. J'espère qu'ils arriveront. Et moi, au contraire, je pense que quand ce centre ouvrira au début du mois de février, eh bien, nous aurons peut-être davantage de vaccins, encore qu'ayant plusieurs milliers de personnes dans le 6e arrondissement. Si j'ai bien calculé, et je suis assez fort en calcul mental, sur la base des livraisons actuelles qui sont de la responsabilité du gouvernement... effectivement, pas de la responsabilité de la mairie de Paris, et encore moins de la mairie du 6e arrondissement, ce sont des mois qu'il faudra attendre avant que les Parisiens, les Parisiennes et les Français soient vaccinés. Mais si on peut améliorer les choses, si ça peut s'améliorer, j'en serai très content, et je pense que tout le monde ici sera dans le même cas. Monsieur Flaubert.
Juste deux points, ça c'est pas du tout dans ma délégation, mais... premièrement, la population vieillissante du 6e, non. On peut avoir une population âgée, on peut avoir une population qui a un certain âge, mais vieillissante, je trouve ça quand même extrêmement dégradant pour les habitants du 6e. Et deuxième point, on n'a pas de vaccin à leur donner, on n'a pas de dose. Donc au rythme actuel, quand bien même il y aurait, je sais pas, un centre pour le 5e, le 6e et le 7e, on mettrait des mois et des mois à vacciner les gens. Nous n'avons pas de dose. C'est absolument pas de la faute d'Anne Hidalgo. Absolument pas, mais nous n'avons pas de dose à leur donner. Donc, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, nous n'avons aucune. Enfin, nous avons des doses à donner, mais nous n'avons pas suffisamment de doses à donner aux habitants. Donc, de toute façon, on pourrait bien ouvrir tous les centres qu'on veut et avoir tous les endroits physiques qu'on veut. On ne pourra pas, compte tenu des doses que nous avons, vacciner tout le monde dans une situation, enfin dans un délai rapide. Point, c'est tout.
Merci, monsieur le maire. Oui, madame Hervieux, je vous entends dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut tous qu'on soit responsables dans cette affaire. Effectivement, comme le dit Charles, il n'y a pas de dose de vaccin. On a une chance absolument extraordinaire d'avoir un vaccin au bout de 10 mois. Il y a des chaînes de fabrication qui n'arrivent pas à suivre. Il n'y a pas d'entreprise d'État de fabrication des vaccins. Il y a des entreprises qui essaient de faire le maximum dans le monde entier pour fournir le monde entier. Je pense que c'est de notre responsabilité, encore plus en étant élus, de garder notre calme et de faire en sorte que le jour où ces vaccins arrivent, ça se passe bien.
Madame Kiss.
Oui, je voudrais intervenir parce qu'en fait, ce vœu, il me pose problème dans la mesure où, pour moi, il n'y a pas à chercher querelle, là où il n'y a pas de sujet, parce que effectivement, comme le disait par exemple Anne Hidalgo, au rythme actuel, il faudrait 34 semaines pour vacciner les Parisiens de plus de 75 ans. Donc je pense qu'en fait, ce vœu devrait plutôt être formulé dans le sens de soutien aux actions, à la fois de la ville de Paris, à la fois aux actions de la mairie d'arrondissement, des personnels, des soignants, des agents, de nous tous, enfin pas moi personnellement, mais toutes les personnes investies qui ne ménagent pas leur peine dans un contexte difficile et compliqué. Donc pour moi, ce serait plutôt un vœu de soutien à tous ces agents, à toutes ces personnes qui se battent, plutôt qu'un vœu d'injonction, parce que je fais confiance à la ville de Paris et aux mairies d'arrondissement pour faire le maximum. Également, concernant le message sur la vaccination, pour moi, il ne faut pas se substituer aux scientifiques et aux responsables de santé. Il faut avoir très clairement à cœur de relayer la parole et les appels des scientifiques, mais il faut être très prudent en prenant vraiment soin de ne pas se substituer à eux. Donc je ne vote pas ce vœu, je m'abstiens. Je suis d'accord pour le fait qu'il faut le plus vite possible un centre de vaccination dans le 6e, mais je pense qu'il faut plutôt soutenir les actions à la fois de la ville de Paris et des mairies d'arrondissement plutôt que d'être dans l'injonction. Je leur fais confiance pour faire le boulot. En gros, merci.
Merci pour votre parole. Peut-être Iris Berthemier qui va donner les dernières informations et puis en plus je vous redonnerai la parole.
Je vous remercie, monsieur le maire. Donc la vaccination est évidemment au cœur de nos préoccupations actuellement. Le centre de vaccination qui va être hébergé à la mairie du 6e arrondissement est en cours de finalisation. Encore aujourd'hui, nos services étaient en réunion avec la DASES, les services de la santé de la ville de Paris. Il y a l'action logistique à coordonner, l'action humaine, l'action administrative. Donc tout ça doit être tout de même solidement ficelé avant que notre centre puisse ouvrir ses portes. Donc un partenariat a été fait avec les médecins du 6e arrondissement qui se sont portés volontaires pour piloter le volet médical. Toutes les démarches en relation avec les autorités de santé, c'est des démarches qui sont relativement lourdes, hein, d'après ce qu'on a entendu dire. Des médecins ont été approchés, hein, nous leur avons écrit, des cabinets d'infirmiers ont été contactés pour connaître leur disponibilité. Donc notre centre, comme vous l'a indiqué monsieur le maire, va être ouvert début février. Donc voilà, c'est prochainement, ça approche, hein. En attendant, nous ne tenons pas à avoir des files d'attente terribles qu'on a vues devant certaines mairies d'arrondissement. Voilà, c'est pas ce qu'on souhaite voir devant notre mairie. Donc il y aura des créneaux qui seront ouverts 6 jours sur 7 aux horaires d'ouverture de la mairie. grâce à deux équipes. Donc, dans une équipe, on a un médecin, deux infirmiers, un agent administratif. Donc, il faut constituer ces équipes. Donc, trouver des médecins, trouver des infirmiers, trouver des agents administratifs également. Voilà, donc le centre de vaccination sera accessible, hein, puisqu'il sera au rez-de-chaussée de la mairie, donc accessible aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Et il recevra en fonction de la disponibilité des vaccins. Donc je vous l'indique ou je vous le rappelle pour ceux qui n'en seraient pas informés. Des créneaux vont être ouverts pour pouvoir prendre rendez-vous sur donc le site santé.fr, les plateformes de réservation de créneaux sur Doctolib, Keldoc, etc. Ou alors en appelant le numéro vert ou le numéro mis en place par la mairie de Paris. Donc voilà, la demande est très forte, on l'entend très bien, notre demande à nous également est forte, hein. On cherche absolument à ouvrir ce centre. On veut faire les choses correctement tout de même, on ne veut pas précipiter les choses, voilà, c'est ce que je peux vous indiquer aujourd'hui.
Et il est bien évident que de toute façon, si on veut vacciner une grosse partie de la population française, atteindre une immunité, il faudra ensuite que les médecins du secteur privé, les pharmaciens qu'ils peuvent, qui ont les espaces suffisants, se mettent à vacciner. Mais les centres de vaccination peuvent effectivement démarrer et notamment s'adresser aux personnes qui souhaitent se faire vacciner, notamment les personnes seules. Certaines sont angoissées, bien sûr, forcément. Bien, merci Madame la conseillère. Vous voulez reprendre la parole?
Oui,
vous retirez votre vœu, peut-être?
Alors, je vais retirer mon vœu, oui, bon, parce que j'entends l'organisation qui a lieu. Moi, simplement, pour vous dire, en fait, j'entends tout ce que vous dites. Simplement, je ne comprends pas pourquoi nous sommes les seuls de tout Paris, encore une fois. Je veux dire, la question
attendez,
des doses,
c'est
une chose.
Nous ne sommes pas les seuls de tout Paris, Madame la conseillère.
Ah, bah,
je vous ai
si,
répondu
excusez-moi.
Tout à l'heure. Je vous ai dit que ce centre... on n'allait pas l'implanter dans la salle du conseil, j'allais pas le mettre dans la cour de la mairie.
Mais ça fait un mois et demi, monsieur le maire,
correct.
Qu'on en parle.
Après, vous êtes incohérente, puisque vous ne votez pas le vœu que je vous propose pour Tarnier, que je vous propose effectivement d'implanter un centre de vaccination provisoire, et vous nous faites le procès de ne pas ouvrir. Alors moi, je suis tolérant,
je suis tout à fait, nous
mais,
sommes tout à fait en faveur de l'ouverture d'un centre de vaccination à Tarnier.
Ne persistez pas dans votre appréciation, qui est une appréciation erronée.
Ben, pardonnez-moi, je maintiens que nous sommes en retard et je maintiens, il ne s'agit pas d'envoler lyrique, il s'agit simplement d'une réelle préoccupation vis-à-vis des habitants du 6e et je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas anticipé les choses. Vous parlez à Madame Bertignan, merci pour votre réponse.
Je viens de vous répondre, Madame. Vous êtes alors après, on peut être autiste politiquement et autiste physiquement.
Je vous permets pas, Monsieur le Maire. Écoutez,
oui,
on a le droit d'exprimer un avis différent du vôtre. On a le droit de s'inquiéter
si
de cette situation.
Si vous ne comprenez pas, moi, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas mes explications. Voilà, c'est tout.
Eh ben, on me dit que je manque
que
de personnel.
Vous retirez votre vœu, c'est très bien.
Il y a beaucoup de volontaires.
Je vous en
remercie. Donc, c'est pas le manque de personnel. Et moi, je vous invite à vous rapprocher de vos collègues en mairie du 8e arrondissement, mairie du 15e arrondissement, mairie du 17e arrondissement, qui sont des collègues de votre majorité et qui, pour le coup, ont organisé les choses. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne sommes pas un arrondissement. Et oui, nous sommes un arrondissement vieillissant. Et ça n'a rien de mal. Il n'y a rien de mal dans cette sémantique-là. Ça n'est pas une chose qui est triste ou en soi. C'est pas dramatique d'être vieillissant en soi, c'est simplement que vous êtes plus vulnérable au virus. Donc je pense que c'est d'autant plus de notre responsabilité, et c'est la responsabilité du maire de protéger ses concitoyens, et donc de mettre les choses en place rapidement.
Merci. Alors après, renseignez-vous aussi. Vous avez des tas de gens qui ont un âge avancé, qui ne sont pas atteints par le virus. Les gens qui sont atteints par le virus sont souvent des gens qui ont des pathologies. Vous avez des gens jeunes qui ont des pathologies qui sont effectivement excessivement sensibles au virus. Mais bon, vous restez sur vos positions, vous avez le droit de le faire. Je vous en remercie. Mes chers collègues, nous nous retrouverons le mardi 23 février 2021. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous savez que vous avez votre carte d'élu qui vous permet d'échapper à tout contrôle inopiné ou déterminé qui risquerait d'intervenir à la sortie de ce conseil. Mais je vous rassure, je n'ai pas convoqué les forces de police à l'entrée de la mairie. Merci à tous, excellente soirée et à très vite.